L'étranger, Albert Camus, chapitre 1er. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai le bus de 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aurait revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autoroute à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, il m'a accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute. Ajouté au chaos, à l'odeur d'essence et la réverbération de la route et du ciel que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. Je voulais voir maman tout de suite, mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé. Ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et il m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait. » Elle était plus heureuse ici. J'ai dit, oui, monsieur le directeur. Il a ajouté, vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, Elle aurait pleuré aussi si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que, dans les dernières années, je ne suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère ». Je me suis levé sans rien dire et il m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours. Et cela rend le service difficile. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit d'un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourriez ainsi veiller la disparue. » Un dernier mot. « Votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Je l'ai remercié. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux au centre supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes à peine enfoncées se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu non. Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a demandé « Pourquoi ?» Mais sans reproche, comme s'il s'informait, j'ai dit « Je ne sais pas ». Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder « Je comprends ». Il avait de beaux yeux bleus clairs et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui aussi s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et il s'est dirigé vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a ». Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé. « Je vais vous laisser seul. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté derrière moi, debout. » Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Deux frelons bourdonnaient contre la verrière et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui, « Il y a longtemps que vous êtes là ?» Immédiatement, il a répondu, « 5 ans. » Comme s'il attend, il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ?» Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec le mort 3 ou 4 jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur ». Le vieux avait rougi et s'était excusé. Et j'étais intervenu pour dire « Mais non, je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. » Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indulgent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres, et plus rarement les vieux, en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir est tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné le commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a proposé une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi. Cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit « Vous savez, les amis de madame votre mère vont venir la veille aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. » Je lui ai demandé si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite, c'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti et revenu à disposer des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait, mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé et, par la porte ouverte, entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. C'était un frôlement qui m'a réveillé. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine. Ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'avais jamais vu personne et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais à peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier. Le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'était que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu du nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, à dos déliné de la tête autour du concierge. Et j'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Peu après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang, cachée par une de ses compagnes, et je la voyais mal. Elle pleura petits cris régulièrement. Il me semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils étaient affaissés, mornes et silencieux. Ils regardaient la bière ou leur canne, ou n'importe quoi, mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours. J'étais très étonné parce que je ne la connaissais pas. J'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas le lui dire. Le concierge s'est penché vers elle, lui a parlé, mais elle a secoué la tête, a bredouillé quelque chose et a continué de pleurer avec la même régularité. Le concierge est venu alors de mon côté. Il s'est assis près de moi. Après un assez long moment, il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée à Madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant, elle n'a plus personne. Nous sommes restés un long moment ainsi. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus rares. Elle reniflait beaucoup. Elle s'est tue enfin. Je n'avais plus sommeil, mais j'étais fatigué et les reins me faisaient mal. À présent, c'était le silence de tous ces gens qui m'étaient pénibles. De temps en temps seulement, j'entendais un bruit singulier et je ne pouvais comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelques-uns d'entre les vieillards suçaient l'intérieur de leurs joues et laissaient échapper ces clapements bizarres. Ils ne s'en apercevaient pas tant ils étaient absorbés par leurs pensées. J'avais même l'impression que cette morte couchée au milieu d'eux ne signifiait rien à leurs yeux. Mais je crois maintenant que c'était une impression fausse. Nous avons tous pris du café, servi par le concierge. Ensuite, je ne sais plus. La nuit a passé, je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton sur le dos de sa main, agrippé à la canne, me regardait fixement comme s'il n'attendait que mon réveil. Puis, j'ai encore dormi. Je me suis réveillé parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Le jour glissait sur la verrière. Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé. Il a beaucoup toussé. Il crachait dans un grand mouchoir à carreaux et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres et le concierge a dit qu'il devait partir. Ils se sont levés. Cette veille incommode leur avait fait des visages de cendre. En sortant, et à mon grand étonnement, ils m'ont tous serré la main comme si cette nuit où nous n'avions pas échangé un mot avait accru notre intimité. J'étais fatigué. Le concierge m'a conduit chez lui et j'ai pu faire un peu de toilette. J'ai encore pris du café au lait qui était très bon. Quand je suis sorti, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines qui séparent Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeur, et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait une odeur de sel. C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Mais j'étais attendu dans la cour sous un platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau à 7 heures et ils se levaient pour aller travailler. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses, mais j'ai été distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu du remue-ménage derrière les fenêtres, puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel. Il commençait à chauffer mes pieds. Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allé dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone en main. Il m'a interpellé. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois ? J'ai dit non. Il a ordonné dans le téléphone en baissant la voix. « Fille Jacques, dites aux hommes qu'ils peuvent aller. » Ensuite, il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau, il a croisé ses petites jambes. Il m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmière de service. En principe, les pensionnaires ne devraient pas assister aux enterrements. Il les laissait seuls veiller. C'est une question d'humanité, a-t-il remarqué. Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. Ici, le directeur a souri. Il m'a dit, « Vous comprenez, c'est un sentiment un peu péril, mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait, on disait à M. Pérez, « C'est votre fiancé ?» Lui riait. Ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Mme Meursault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation, mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé. Voilà déjà le curé de Marengo. Il est en avance. Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins 3 quarts d'heure de marche pour aller à l'église et qu'il est au village même. Nous sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait le curé et 2 enfants de chœur. L'un de ceux-ci tenait un encensoir et le prêtre se baissait vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent. Quand nous sommes arrivés, le prêtre s'est relevé. Il m'a appelé mon fils et m'a dit quelques mots. Il est entré, je l'ai suivi. J'ai vu d'un coup que les vis de la bière étaient enfoncées et qu'il y avait 4 hommes noirs dans la pièce. J'ai entendu en même temps le directeur me dire que la voiture attendait sur la route et le prêtre commençait ses prières. À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les hommes se sont avancés vers la bière avec un drap. Le prêtre s'est suivant, le directeur et moi-même sommes sortis. Devant la porte, il y avait une dame que je ne connaissais pas. « Monsieur Meursault », a dit le directeur. Je n'ai pas entendu le nom de cette dame et j'ai compris seulement qu'elle était infirmière déléguée. Elle a incliné sans un sourire son visage osseux et long. Puis nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait la voiture, vernie oblongue et brillante. Elle faisait penser à un plumier. Au côté d'elle, il y avait l'ordonnateur. Petit homme aux habits ridicules et un vieillard à l'allure empruntée. J'ai compris que c'était M. Pérez. Il avait un feutre mou à la calotte ronde et aux ailes larges. Il l'a ôté quand la bière est passée à la porte. Un costume dont le pantalon tire-bouchonnait sur les souliers et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grands carreaux blancs. Ses lèvres tremblaient au-dessus d'un nez truffé de points noirs. Ses cheveux blancs assez fins laissaient passer de curieuses oreilles ballantes et mal ourlé, dont la couleur rouge de sang dans ce visage blafard me frappa. L'ordonnateur nous donna nos places. Le curé marchait en avant, puis la voiture. Autour d'elle, les 4 hommes. Derrière le directeur, moi-même, et fermant la marche, l'infirmière déléguée et M. Pérez. Le ciel était déjà plein, le soleil. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Le petit vieux qui s'était recouvert a de nouveau ôté son chapeau. Je m'étais un peu tourné de son côté et je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui. Il m'a dit que souvent ma mère et M. Pérez allaient se promener le soir jusqu'au village, accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes des cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que M. Pérez claudiquait légèrement. La voiture, peu à peu, prenait de la vitesse et le vieillard perdait du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'était laissé dépasser aussi et marchait maintenant à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du chant des insectes et de crépitements d'herbes. La sueur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. L'employé des pompes funèbres m'a dit alors que quelque chose que je n'ai pas compris. En même temps, il s'essuyait le crâne avec un mouchoir qu'il tenait dans sa main gauche. La main droite soulevait le bord de sa casquette. Je lui ai dit comment ? Il a répété en montrant le soleil. Ça tape ? J'ai dit oui. Un peu après, il m'a demandé : c'est votre mère qui est là ? J'ai encore dit oui. Elle était vieille ? J'ai répondu comme ça, parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tu. Je me suis retourné et j'ai vu le vieux Pérez à une cinquantaine de mètres derrière nous. Il se hâtait en balançant son feutre à bout de bras. J'ai regardé aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse, gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron, les pieds y enfoncés et laissé ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher, en cuir bouilli, semblait avoir été pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs, noir gluant du goudron vert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur, le cuir et du crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie me troublaient le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard et j'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers champs. J'ai constaté aussi que devant moi, la route tournait. J'ai compris que M. Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoints, puis nous l'avons perdu. Il a repris encore à travers champs et comme cela plusieurs fois. Moi, je sentais le sang qui me battait aux tempes. Tout s'était passé ensuite avec tant de précipitation, de certitude et de naturel que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement, à l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage et une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit « Si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on a une transpiration et dans l'église, on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison, il n'y avait pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée, par exemple le visage de Pérez quand, pour la dernière fois, il nous a rejoints près du village. De grosses larmes, d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues, mais à cause des rides, elle ne s'écoulait pas. Elle s'étalait, se rejoignait et formait un vernis d'eau sur ce visage détruit. Il y eut encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de M. Pérez, on aurait dit un pantin disloqué, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, de chair blanche, des racines qui s'y mêlaient, encore du monde, des voix, le village, et l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher dormir pendant 12 heures.
Le coup de feu, Alexandre Pouchkine. Le coup de feu. Nous nous battîmes. Baratinsky. Je jurais de l'abattre selon les lois du duel. Il me devait encore mon coup. Un soir, au bivouac. Partie 1. Nous avions nos quartiers dans la bourgade de Trois Points. On sait ce qu'est la vie d'un officier de garnison. Le matin, exercice, manège, repas chez le commandant du régiment ou dans une auberge juive. Le soir, ponche et cartes. À Trois Points, il n'y avait pas une maison où l'on tint salon, pas une jeune fille à marier. Nous nous réunissions les uns chez les autres et nous n'y voyions que nos uniformes. Un homme seulement appartenait à notre société sans être militaire. Il avait près de 35 ans, ce qui en faisait à nos yeux un vieillard. L'expérience lui donnait sur nous maints avantages. Du reste, son air habituellement taciturne, son caractère rude et sa mauvaise langue influençaient fortement nos jeunes esprits. Une sorte de mystère entourait son destin. Il paraissait russe, mais portait un nom étranger. Il avait jadis servi dans les hussards et non sans succès. Nul ne savait ce qui l'avait poussé à démissionner et à s'installer dans cette triste bourgade où il menait un train de vie à la fois frugal et prodigue. Il allait toujours à pied, vêtu d'une redingote noire usée, mais tenait table ouverte pour tous les officiers de notre régiment. À vrai dire, son dîner consistait en deux ou trois plats préparés par un soldat à la retraite, mais le champagne y coulait à flots. Personne ne connaissait l'étendue de sa fortune ni de ses rentes, et personne n'osait lui en poser la question. On trouvait chez lui des livres, surtout des traités militaires, et des romans. Il les prêtait volontiers sans jamais les réclamer. En revanche, il ne rendait à son propriétaire un livre emprunté. Son exercice favori était le tir au pistolet. Les murs de sa chambre étaient rongés par les balles, aussi pleins d'alvéoles que les rayons d'une ruche. Une riche collection de pistolets était le seul luxe de la pauvre masure qu'il habitait. Il était parvenu à une adresse incroyable et s'il s'était proposé d'abattre une poire posée sur la casquette de quelqu'un, nul dans notre régiment n'eût craint d'y risquer sa tête. Notre conversation avait souvent trait au duel. Silvio, je l'appellerai ainsi, n'y prenait alors jamais part. Il répondait sèchement à nos questions, qu'il lui était arrivé de se battre, mais ne rentrait point dans les détails. Et l'on voyait que de telles questions lui étaient désagréables. Nous supposions qu'il avait sur la conscience quelques malheureuses victimes de sa terrible adresse. D'ailleurs, nous ne songions pas même à soupçonner en lui fût-ce un semblant de poltronnerie. Il existe des gens dont le seul aspect écarte de tels soupçons. Un incident imprévu nous stupéfia tous. Un jour, une dizaine de nos officiers dînaient chez Silvio. Nous buvions comme à l'ordinaire, c'est-à-dire beaucoup. Après le repas, nous insistâmes pour que l'hôte nous tînt une banque. Il refusa longtemps, ne jouant presque jamais. Enfin, il ordonna d'apporter les cartes. jeta sur la table une cinquantaine de pièces d'or et commença de tailler. Nous l'entourâmes et le jeu s'engagea. Silvio avait l'habitude de garder, durant le jeu, un silence absolu, ne discutait pas et ne s'expliquait pas. S'il arrivait à un ponteur de se tromper, il payait aussitôt ce qui manquait ou inscrivait l'excédent. Nous le savions bien et nous laissions Silvio faire à sa manière. Mais nous avions parmi nous un officier muté depuis peu dans notre régiment. Il jouait avec nous et fit par distraction un paroli de trop. Silvio prit la craie et rétablit le compte selon son habitude. L'officier, pensant qu'il s'était trompé, se lança dans des explications. Silvio continua de tailler sans rien dire. L'officier perdit patience, se saisit de la brosse et effaça ce qu'il croyait inscrit à tort. Silvio prit la craie et l'inscrivit de nouveau. L'officier, à qui le vin, le jeu et le rire de ses camarades avaient échauffé l'esprit, se sentit cruellement offensé. Pris de rage, il saisit un chandelier de cuivre sur la table et le lança sur Silvio qui l'esquiva de justesse. Nous étions tous fort embarrassés. Silvio se leva, blême de colère, et dit avec un regard étincelant, « Monsieur, veuillez sortir et remercier Dieu que cela soit arrivé dans ma maison. » Nous ne doutions pas des conséquences et considérions notre nouveau camarade comme mort. L'officier sortit en disant qu'il était prêt à répondre à son offense à la convenance de monsieur le banquier. La partie se prolongea encore quelques minutes, mais sentant que notre hôte n'avait pas l'esprit à jouer, nous quittâmes le jeu un à un et rejoignîmes nos logis en discutant de l'immanente vacance au régiment. Le lendemain, au manège, nous nous enquérions déjà de savoir si le pauvre lieutenant était toujours en vie. Quand il apparut parmi nous en personne, nous lui posâmes la question. Il répondit qu'il n'avait eu nulle nouvelle de Silvio. Cela nous étonna. Nous allâmes chez Silvio et nous le trouvâmes dans sa cour, logeant balle sur balle dans l'as collé sur la porte cochère. Il nous reçut comme à son habitude, sans rien dire de l'incident de la veille. 3 jours s'écoulèrent et le lieutenant était encore en vie. Nous nous demandions avec étonnement, « Silvio, ne se battra-t-il pas ?» Silvio ne se battit pas. Il se satisfit d'une explication superficielle et se réconcilia avec l'offenseur. Ceci faillit lui nuire considérablement aux yeux des jeunes officiers. Les jeunes gens pardonnent moins que tout le manque de bravoure, car ils y voient d'habitude le sommet du mérite humain et l'excuse à toutes sortes de vices. Pourtant, petit à petit, tout s'oublia et Silvio retrouva son influence première. Moi seul, je ne parvenais plus à m'en rapprocher. Étant donné de nature d'une imagination romanesque, j'avais été plus attaché que tous les autres, à cet homme dont la vie était une énigme et qui me semblait être le héros de quelque mystérieux roman. Il avait de l'affection pour moi, du moins étais-je le seul avec qui Silvio se départait de son habituelle et acerbe médisance et discourait de choses et d'autres avec candeur et une extrême aménité. Néanmoins, après cette malheureuse soirée, la pensée que son honneur fut souillé et le resta par sa propre faute, cette pensée ne me quittait pas et m'empêchait de me comporter envers lui comme auparavant. J'avais honte de le regarder. Silvio était trop intelligent et avait trop d'expérience pour ne pas s'apercevoir de ce changement et ne pas en deviner la cause. Cela paraissait le chagriner. Tout au moins avais-je perçu à quelques deux reprises son désir de s'expliquer avec moi, mais je fuyais de telles occasions et Silvio renonça. Dès lors, je ne le rencontrais plus qu'en présence de mes camarades et ceci mit fin à nos conversations intimes de jadis. Les habitants, distraits de la capitale, n'ont pas idée des nombreuses émotions si familières aux habitants des petites villes et des campagnes, comme par exemple l'attente du jour du courrier. Tous les mardis et vendredis, le bureau de notre régiment était plein d'officiers. Certains attendaient de l'argent, d'autres des lettres, d'autres les journaux. Les paquets étaient d'habitude décachetés sur le champ. Les nouvelles se répandaient vite et le bureau présentait un aspect fort animé. Silvio recevait ses lettres à l'adresse de notre régiment et se trouvait habituellement présent à la distribution. Un jour, on lui remit un pli dont il arracha le cachet avec un air d'extrême impatience. Ses yeux étincelaient en parcourant la lettre. Les officiers, occupés, chacun à leurs affaires, n'en remarquait rien. « Messieurs, leur dit Silvio, les circonstances exigent que je m'absente immédiatement. Je pars cette nuit même. J'espère que vous ne me refuserez pas l'honneur de dîner chez moi une dernière fois. Je compte sur vous aussi, poursuivit-il en s'adressant à moi. Je compte sur vous tout particulièrement. » Sur ces mots, il sortit précipitamment et nous nous séparâmes pour aller chacun de notre côté, étant convenu de nous réunir chez Silvio. J'arrivai chez Silvio à l'heure dite et y trouvai presque tous les officiers du régiment. Tout son bagage était fait et il ne restait plus dans la maison que les murs nus criblés de balles. Nous nous mîmes à table. Notre hôte était d'une humeur excellente et sa gaieté se communiqua bientôt à tous. Les bouchons sautaient à chaque instant, les verres moussaient et pétillaient sans cesse, et nous mettions tout notre empressement à souhaiter aux voyageurs bonne route et bon vent. Nous ne quittâmes la table que tard dans la nuit. Alors que les convives récupéraient leurs casquettes et prenaient congé de Silvio, il me prit le bras et me retint à l'instant où j'allais sortir. « Il faut que je vous parle, » dit-il à voix basse. « Je restai. » Les invités s'en allèrent, nous restâmes seuls, nous nous assîmes l'un en face de l'autre et allumâmes nos pipes en silence. Silvio était préoccupé. Toute trace de sa gaieté fébrile avait disparu, sa pâleur rembrunie, ses yeux brillants et l'élégance, l'épaisse fumée qui sortait de sa bouche lui donnaient l'air d'un vrai diable. Quelques minutes s'écoulèrent et Silvio rompit le silence. Il est possible que nous ne nous reverrons jamais plus, me dit-il. Avant de nous séparer, j'ai voulu m'expliquer avec vous. Vous avez pu vous rendre compte que je fais peu de cas de l'opinion d'autrui, mais j'ai de l'affection pour vous, et je sens qu'il me serait pénible de laisser en votre esprit une impression injuste. » Il s'arrêta et se mit à bourrer sa pipe qui s'était éteinte. Je me taisais, baissant les yeux. « Il vous a paru étrange, poursuivit-il, que je n'ai pas exigé réparation de cet ivrogne extravagant, R. Vous conviendrez qu'ayant le choix des armes, sa vie était entre mes mains et la mienne presque en sécurité. Je pourrais attribuer ma retenue à ma seule magnanimité, mais je ne veux pas mentir. Si j'avais pu châtier R sans aucunement risquer ma vie, je ne l'aurais jamais pardonné. » Je regardais Silvio, abasourdi. Cet aveu me troubla profondément. Silvio poursuivait. « Parfaitement. Je n'ai pas le droit de m'exposer à la mort. Il y a 6 ans, j'ai reçu un soufflet. Mon ennemi est encore en vie. » Ma curiosité était au comble. « Vous ne vous êtes pas battu avec lui ? » demandai-je. « Les circonstances vous auraient séparé. » « Je me suis battu avec lui, » répondit Silvio. « Et voici un souvenir de notre duel. » Silvio se leva et sortit d'un carton un bonnet rouge à galons et houppe d'or, ce que les Français appellent bonnet de police. Il s'en coiffa. Le bonnet était troué par une balle à un doigt du front. « Vous savez que j'ai servi dans le régiment des hussards de trois points, » continua Silvio. « Vous connaissez mon caractère. J'ai l'habitude d'être premier en tout, mais dans ma jeunesse, ce désir avait la force d'une passion. La débauche était à la mode à notre époque. J'étais le premier tapageur de l'armée. On se vantait de boire. Je l'emportais même sur le fameux Bourstov, chanté par Denis Davidov. Les duels survenaient à chaque instant dans notre régiment. Pour chacun d'eux, j'étais ou parti ou témoin. Mes camarades m'adoraient et les commandants du régiment, sans cesse remplacés, me considéraient comme un mal nécessaire. Je jouissais paisiblement, si l'on peut dire, de ma gloire lorsqu'un jeune homme d'une famille riche et illustre, que je ne souhaite pas nommer, s'enrôla chez nous. De ma vie, je n'avais rencontré un homme si heureux en toutes choses et si brillant. Imaginez-vous la jeunesse, l'esprit, la beauté, la gaieté la plus débridée, l'audace la plus insouciante, un grand nom, de l'argent qu'il dépensait sans compter et dont il ne manquait jamais. Imaginez-vous maintenant l'effet qu'il dut produire parmi nous. Ma supériorité chancela. Attiré par ma renommée, il allait chercher mon amitié, mais je le reçus froidement et il s'éloigna de moi sans le moindre regret. Je le haïs. Le succès dont il jouissait dans le régiment et auprès des femmes me mettait au comble du désespoir. Je me mis à lui chercher querelle. À mes épigrammes, il répondait par des épigrammes qui me semblaient toujours plus originales et plus acerbes que les miennes, et qui étaient certes incomparablement plus gaies. Il plaisantait alors que j'étais fielleux. Un soir, enfin, au bal d'un hobereau polonais, le voyant l'objet de l'attention de toutes les femmes et tout particulièrement de l'hôtesse qui avait une liaison avec moi, je lui soufflai à l'oreille quelques plates grossièretés. Il s'emporta et me gifla. Nous nous jetâmes sur nos sabres, les dames s'évanouirent, on nous sépara de force et la nuit même nous allâmes nous battre. C'était à l'aube. Je me trouvais à l'endroit désigné avec mes trois témoins. C'était avec une impatience inexplicable que j'attendais mon adversaire. Le soleil printanier s'était levé et la chaleur croissait. Je le vis de loin. Il venait à pied, son manteau d'uniforme pendu sur le sabre, accompagné d'un seul témoin. Nous allâmes à sa rencontre. Il s'approchait, tenant à la main une casquette remplie de cerises. Nos témoins mesurèrent 12 pas. Je devais tirer en premier, mais la rancœur m'agitait si violemment que je doutais de la sûreté de ma main et, pour me donner le temps de me calmer, je lui cédai le premier coup. Mon adversaire refusa. On convint de tirer au sort. Le premier numéro échut et cet éternel favori de la fortune. Le premier numéro échut à cet éternel favori de la fortune. Il visa et atteignit ma casquette. C'était à mon tour de tirer. Sa vie était enfin entre mes mains. Je le dévorais du regard, tentant de déceler fût-ce l'ombre d'une inquiétude. Il se tenait debout dans ma ligne de tir, choisissant dans sa casquette les cerises les plus mûres. Les noyaux qu'il recrachait m'atteignirent presque. Son indifférence me fit enrager. À quoi bon, pensais-je, lui ôter une vie à laquelle il attache si peu de prix? Une pensée perfide me traversa l'esprit. Je baissai mon pistolet. « Il semblerait que vous n'ayez pas l'esprit à mourir, » lui dis-je. « Vous me faites l'honneur de déjeuner en ma présence et je crains de vous importuner. »« Vous ne m'importunez nullement, » répliqua-t-il. « Tirez donc, je vous en prie. » Ceci dit, faites comme il vous plaira. Vous gardez droit à votre coup, je reste à votre disposition. » Je déclarai à mes témoins que je n'avais pas l'intention de tirer aujourd'hui et le duel se termina ainsi. Je donnai ma démission et me retirai dans cette bourgade. Pas un jour ne s'est passé depuis où je n'ai songé à me venger. Aujourd'hui, mon heure est venue. Silvio sortit de sa poche la lettre qu'il avait reçue le matin et me la donna à lire. On lui écrivait de Moscou. Il s'agissait, semble-t-il, de son chargé d'affaires. Qu'une certaine personne s'apprêtait à s'unir prochainement en légitime mariage avec une jeune fille de grande beauté. « Vous devinez, » me dit Silvio, « qui est cette certaine personne ? Je pars pour Moscou. Nous verrons si, à la veille de ses noces, il accueillera la mort avec autant d'indifférence que naguère, en mangeant des cerises. » À ces mots, Silvio se leva, jeta par terre sa casquette et se mit à marcher de long en large dans la chambre comme un tigre en cage. Je l'écoutais, immobile. Des sentiments étrangers et contradictoires m'agitaient. Le valet entra et annonça que les chevaux étaient prêts. Silvio me serra fortement la main, nous embrassâmes. Il monta dans la voiture où se trouvaient deux valises, l'une avec les pistolets et l'autre avec ses effets. Nous nous dîmes adieu encore une fois et les chevaux partirent au galop. Quelques années s'écoulèrent et des raisons de famille m'obligèrent à m'installer dans un pauvre hameau de la circonscription de N. Tout occupé que j'étais par la gestion de mes propriétés, je ne cessais de soupirer discrètement après mon existence insouciante et tumultueuse d'autrefois. Le plus difficile était de m'habituer à passer les soirées d'automne et d'hiver dans une complète solitude. Je me traînais tant bien que mal jusqu'au dîner, causant avec le staroste, assistant aux travaux des champs ou visitant les nouvelles installations. Mais sitôt que le crépuscule tombait, je ne savais plus où me mettre. Le peu de livres dénichés sous les armoires et dans le grenier m'étaient déjà connus par cœur. Toutes les histoires merveilleuses dont pouvait se souvenir ma ménagère, Kirillovna, m'avait été contée. Les chansons des paysannes me donnaient du vague à l'âme. Pour un peu, je me serais mis à la liqueur de baie, mais j'en avais des maux de tête. D'ailleurs, j'avoue avoir eu peur de devenir ivrogne par dépit. Ceux-là sont des pires ivrognes, et j'en avais vu plus d'un dans notre district. Il n'y avait point de voisins suffisamment proches, quelques-uns des pires mis à part, dont le discours se réduisait à des hoquets et des soupirs émus. La solitude était plus facilement supportable. À 4 verstes de chez moi s'étendait la riche propriété de la comtesse de B, dans laquelle ne vivait que son régisseur. La comtesse n'y s'y était rendue qu'une seule fois durant les dernières années de son mariage et encore n'y avait-elle passé qu'un mois. Pourtant, au second printemps de ma réclusion, le bruit se répandit que la comtesse et son mari viendraient passer l'été dans leur campagne. Ils arrivèrent en effet au début du mois de juin. L'arrivée d'un riche voisin marque toute une époque pour les habitants de la campagne. Les châtelains et leurs gens en parlent 2 mois avant et 3 ans après. En ce qui me concerne, je dois avouer que la nouvelle annonçant l'arrivée d'une belle et jeune voisine avait eu sur moi un effet considérable. Je brûlais d'impatience de la rencontrer. Aussi m'en allais-je le premier dimanche après son arrivée, me recommander à leur excellence comme leur plus proche voisin et très humble serviteur. Un laquais m'introduisit dans le cabinet du comte et alla m'annoncer. Le cabinet était vaste et décoré de la façon la plus luxueuse. Des étagères remplies de livres et surmontées chacune d'un buste en bronze longeant les murs. Un large miroir dominait la cheminée. Le sol était revêtu de toiles vertes et recouvert de tapis. Privé de luxe dans mon pauvre logis et déshabitué depuis longtemps de la richesse d'autrui, je me sentis intimidé et attendit le comte avec une sorte d'émoi comme un solliciteur de province attend la sortie d'un ministre. Les portes s'ouvrirent et un homme d'environ 32 ans entra, très bien fait de sa personne. Le comte s'approcha de moi avec un air avenant et amical. Je m'efforçais de retrouver une contenance et commençais à décliner mes qualités, mais il me devança. Nous nous assîmes. Sa conversation libre et courtoise dissipa ma frustre timidité. Je recouvrai peu à peu mon aisance, quand soudain la comtesse entra et je retombai dans mon embarras. En vérité, c'était une femme d'exceptionnelle beauté. Le comte me présenta à elle. J'affectai la désinvolture, mais plus je voulais paraître à mon aise, plus je me sentais gauche. Pour me donner le temps de me remettre et me faire à cette nouvelle connaissance, ils se mirent à parler entre eux, me traitant en bon voisin et sans cérémonie. Pendant ce temps, je faisais les 100 pas dans la pièce, regardant les livres et les tableaux. Je ne suis pas connaisseur en peinture, pourtant l'une des toiles attira mon attention. Elle présentait un visage suisse quelconque. Ce ne fut pas la peinture elle-même qui me frappa, mais la trace que la toile gardait de 2 balles fichées l'une sur l'autre. « Voici un beau coup, » dis-je en m'adressant au comte. « Oui, » répondit-il, « un coup exceptionnel. Êtes-vous bon tireur, » poursuivit-il. « Assez, » répondis-je. Content que la conversation toucha enfin un thème qui m'était familier. À 30 pas, je ne manquerai pas une carte à jouer, avec des pistolets que je connais, bien entendu. « Vraiment ? » fit la comtesse d'un air de grande attention. « Et toi, mon ami, mettrais-tu une balle dans une carte à 30 pas ?» « Un jour, nous essaierons, » reprit le comte. En mon temps, je ne tirais pas si mal, mais voilà 4 ans que je n'ai pas tenu de pistolet. « Oh, » dis-je, « en ce cas, je suis prêt à parier que votre excellence ne percerait pas une carte à jouer à 20 pas. Le pistolet exige un exercice journalier, je le sais d'expérience. Dans notre régiment, je passais pour être l'un des meilleurs tireurs. Il m'advint une fois de rester tout un mois sans toucher à un pistolet. Les miens étaient en réparation. Eh bien, me croirez-vous, Excellence, la première fois que je me remis à tirer, je manquais à 4 reprises une bouteille à 25 pas. Nous avions un capitaine plaisantin et bel esprit à sa manière. Il passait là et me dit « Mon ami, il faut croire que tu n'oses lever la main sur une bouteille. » « Non, Excellence. » Il ne faut point négliger l'exercice, faute de quoi on perd vite la main. Le meilleur tireur qu'il m'ait été donné de rencontrer s'exerçait chaque jour au moins 3 fois avant le dîner. C'était chez lui une habitude aussi ferme que le verre de vodka. Le comte et la comtesse étaient ravis de me voir lier conversation. « Et que valait son tir ? » demanda le comte. « Eh bien, voilà l'excellence. » Il pouvait lui arriver de voir une mouche se poser sur le mur. Vous riez, comtesse. Je vous jure que c'est vrai. Il voit la mouche et s'écrie « Kouska, mon pistolet !» Kouska lui apporte un pistolet chargé et boum, il vous enfonce la mouche dans le mur. « Étonnant !» fit le comte. « Et quel était son nom ?»« Silvio, excellence !»« Silvio !» s'écria le comte avec un sursaut. « Vous avez connu Silvio ?»« Comment ne l'aurais-je pas connu, excellence ?»« Nous étions bons amis. Il était accueilli dans notre régiment comme un vieux camarade. » Mais voici pourtant 5 ans que je n'ai pas de nouvelles de lui. C'est donc que votre Excellence le connaissait aussi ?
Je l'ai connu, je l'ai bien connu. Ne vous a-t-il pas conté... Mais non, j'en doute. Ne vous a-t-il jamais conté une très singulière aventure ?
S'agirait-il, Excellence, d'un soufflet qu'il reçut à un bal de quelques écervelés ?
Vous aurait-il dit le nom de cet écervelé ?
Non, Excellence, il ne me l'a pas dit.
Ah, Excellence, poursuivis-je, devinant la vérité, pardonnez-moi, j'ignorais.
Serait-ce vous ?
Moi-même, répondit le comte, l'air profondément dépité. Et le tableau percé est le souvenir de notre dernière rencontre.
Ah !
Mon cher, dit la comtesse, pour l'amour de Dieu, ne continue pas.
C'est trop affreux, c'est trop affreux.
Non, répliqua le comte, je lui raconterai tout. Il sait de quelle façon j'ai offensé son ami, qu'il apprenne aussi comment Silvio s'est vengé.
Le comte m'offrit un fauteuil et j'entendis avec la plus vive curiosité le récit suivant. Il y a 5 ans, je me suis marié. Le premier mois, le honeymoon, je l'ai passé ici, dans cette campagne. Je dois à cette maison les plus beaux instants de ma vie et l'un de mes plus pénibles souvenirs. Un soir, nous sortîmes ensemble à cheval. Celui de ma femme s'entêta. Elle prit peur, me donna la bride et rentra à pied. Je la devançai. Dans la cour, j'aperçus une voiture de voyage. On me dit qu'un homme m'attendait dans mon cabinet et qui n'avait pas voulu se nommer, disant simplement qu'il avait affaire avec moi. J'entrai dans cette même pièce et je vis dans la pénombre un homme couvert de poussière avec une barbe de plusieurs jours. Il se tenait là-bas, près de la cheminée. Je m'approchai de lui, cherchant à me remémorer ses traits. « Tu ne me reconnais donc pas, comte ? » dit-il d'une voix tremblante. « Silvio ! » m'écriai-je. Et je vous avoue que je sentis mes cheveux se dresser soudain sur ma tête.
« En personne, » poursuivit-il, « c'est à mon tour de tirer. Je suis venu décharger mon pistolet. Es-tu prêt ?»
Un pistolet dépassait d'une de ses poches de côté. Je mesurai 12 pas et me mis dans le coin, là-bas, le priant de faire vite. Tant que ma femme n'était pas rentrée. Il s'attardait. Il réclama de la lumière, on apporta des bougies, je fermai la porte à clé, donnai des ordres pour que personne n'entrât et le priai à nouveau de tirer. Il sortit le pistolet et visa. Je comptai les secondes. Je songeais à elle. Une minute terrible s'écoula. Silvio baissa le bras.
« Je regrette, dit-il, que ce pistolet ne soit pas chargé de noyaux de cerise. La balle est lourde. L'impression que notre duel tourne à l'assassinat ne me quitte pas. Je n'ai pas l'habitude de viser un homme désarmé. Recommençons et laissons le sort déterminer qui tirera le premier. » La tête me tournait. Je crois que je n'acceptais pas. Enfin, nous chargeâmes un second pistolet. On plia 2 billets, on les déposa dans la casquette que j'avais jadis transpercée. Je tirai cette fois encore le premier numéro.
« Tu as une chance de diable, comte !» dit Silvio, avec un petit rire que je n'oublierai jamais. Je ne comprends pas quel devait être mon état pour qu'il pût me contraindre à tirer. Mais je tirai et j'atteignis ce tableau-là.
Le comte désigna du doigt le tableau transpercé. son visage était en feu. La comtesse était plus pâle que son mouchoir. Je ne pus retenir une exclamation. Je tirai, poursuivit le comte, et Dieu merci, je le manquais. Alors Silvio, il était en vérité effrayant à cet instant-là. Silvio commença à me viser, soudain la porte s'ouvre. Macha entre en courant et avec un cri aigu se jette à mon cou. Sa présence me rendit tout mon courage. « Ma chérie, lui dis-je, tu ne vois donc pas que nous plaisantons, comme te voilà effrayée. Va donc boire un verre d'eau et rejoins-nous. Je te présenterai un vieil ami et camarade. » Macha avait encore peine à me croire. « Dites-moi si mon mari dit vrai, » demanda-t-elle en s'adressant au terrible Silvio. « Est-il vrai que vous plaisantez tous les deux ?»«
Il plaisante toujours, comtesse, » lui répondit Silvio. « Un jour, en plaisantant, il me gifla. En plaisantant, il fit un trou dans la casquette que voici, et c'est en plaisantant qu'il vient de me manquer maintenant. Il me vient, à moi aussi, l'envie de plaisanter. » Sur ces mots, il voulut me mettre en joue devant elle. Macha se jeta à ses pieds.
« Lève-toi, Macha, n'as-tu pas honte ? » m'écriai-je, furieux. « Et vous, monsieur, cessez-vous de vous rallier d'une pauvre femme ? Allez, vous tirez, oui ou non ?»«
Je ne tirerai pas, » répondit Silvio. « Je suis satisfait. J'ai vu ton trouble, ta frayeur. Je t'ai forcé de tirer sur moi. Cela me suffit. Tu te souviendras de moi. Je te livre à ta conscience. » Sur ce, il sortit, mais en passant la porte, il s'arrêta, se retourna pour jeter un regard sur le tableau transpercé par ma balle, tira presque sans viser et disparut. Ma femme gisait évanouie, mais Jean n'osait pas l'arrêter et le regardait avec effroi. Il sortit sur le perron et là son cocher s'en alla avant que j'eusse le temps de recouvrer mes esprits. Le comte se tut. J'avais ainsi appris la fin de l'histoire dont le début m'avait tellement frappé jadis. Je n'ai plus revu son héros. On raconte que Silvio, lors de l'insurrection d'Alessandre Ypsilantis, commandait un détachement des hérétristes, des éthéristes, et fut tué dans la bataille de Sculénie.